Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Sylvie Cazenave-Perret. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Présidente du groupe Posson Packaging. Face à vous, Guillaume Dard. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Président de Montpensier à Brevel, vice-président de l'Association française de gestion financière. Et Louis-Samuel Pilser. Bonjour Louis-Samuel.
Bonjour Raphaël.
Co-fonctionnaire enseignant à Sciences Po et Polytechnique. Alors je le disais, le premier débat, ça va être la question. 2025, c'était déjà le cas. 2026, ça continue. Et 2027, va-t-on subir encore un choc fiscal? David Amiel réunit ce mercredi une grande partie du gouvernement pour faire un point sur les pistes d'économie possibles dans chaque ministère, à la fois pour cette année et l'année prochaine. Mais la réalité, Louis-Samuel, allez, je commence avec vous, c'est que ce sont surtout les impôts qui flambent. On a eu la loi de règlement présentée mardi à l'Assemblée nationale. Et ce qu'on voit, c'est que l'année dernière, plus de 30 milliards de hausse d'impôts. La moitié, c'est la hausse naturelle grâce à la croissance. Mais il y a eu près de 16 milliards de hausse d'impôts nouveaux.
Oui, l'effort pour redresser les finances publiques, il est considérable. C'est une centaine de milliards d'euros d'économies à trouver sur les prochaines années, d'économies ou de recettes nouvelles. Donc il faut répartir cet effort entre des baisses de dépenses. Mais on voit, quand on analyse les propositions que font les gouvernements successifs tous les ans, que les projets de baisse de dépenses, il n'y a pas de recettes miracles.
Eh oui, c'est compliqué, notamment à l'Assemblée, à chaque fois, dès qu'on en propose, c'est retoqué.
Exactement, et en fait, on voit aussi que c'est une succession de 1 milliard plus 1 milliard plus 1 milliard. Donc, on n'a pas une recette magique, un miracle qui permettrait de générer 20 milliards d'euros d'économie. Donc, en fait, on est obligé de gratter sur un peu tous les budgets, à la fois sur l'État, qui représente au final une faible part de la dépense publique et qui est à l'os à cause des 20 ans d'austérité qu'on a imposé à nos programmes.
C'est ça qu'on peut rappeler, Louis-Samuel, c'est que l'État, c'est quoi, 30-35% de la dépense publique. C'est sur l'État à chaque fois qu'on serre la vis, alors que le vrai morceau, c'est les dépenses sociales, plus de 60% des dépenses.
Exactement, les dépenses sociales avec à la fois les retraites et la santé, mais en fait qui progressent avec la démographie. Donc c'est des facteurs qu'on a un peu de mal à contrôler, donc on essaye de réduire telle ou telle dépense qu'on juge injustifiée ou trop importante. Notamment sur la santé, il y a un certain nombre de marges d'économie. Sur les retraites, on fait des réformes tous les 2-3 ans pour essayer de mieux répartir l'effort. Moi, je pense qu'il faut une refonte de notre système de retraite pour faire peser, permettre à la fois de mieux prendre en compte la pénibilité et de faire partir plus tôt ceux qui ont des carrières pénibles et dont l'espérance de vie est affectée également par cette pénibilité, mais en même temps en assumant de faire partir un peu plus tard les cadres supérieurs qui n'ont pas de problème à travailler quelques années de plus. Donc, je pense que cette refonte de notre système de retraite, c'est un volet qui sera incontournable en 2027.
Le grand sujet de la présidentielle.
C'est le principal sujet. Et les dépenses locales également, qui sont un des principaux vecteurs d'économie, puisqu'il faut aussi rappeler que les lois de décentralisation successives ont conduit à une inflation énorme des dépenses locales. Quand on a créé les intercos, quand on a renforcé leur mission.
Parce que les comptes s'améliorent des collectivités locales quand même. J'ai deux chefs d'entreprise sur le plateau, Sylvie Cazenave-Perret et Guillaume Dard.
C'est qu'on n'a pas de guerre en Europe, c'est déjà ça. Parce que sinon, on retombait dans la situation dans laquelle on est des finances publiques, probablement non pas dans la banqueroute des deux tiers de 1797, mais dans un événement complètement oublié de l'histoire de France, qui est les 15 dernières années du règne de Louis XIV, où la France a été complètement en cessation de paiement.
La banqueroute.
Une banqueroute quasi complète. C'est pas par gentillesse que Louis XIV a fondu la vaisselle d'argent de Versailles, parce qu'il y avait plus de monnaie en France. Et deuxièmement, c'est là où on a mis un impôt pour tout le monde qui s'appelait le dixième. C'est intéressant parce que c'est à peu près le niveau de la CSG. Et on est reparti pour ça. La seule chose, c'est que notre modèle est complètement bloqué, même si effectivement on peut dire l'État a subi une cure d'austérité globalement. Essentiellement grâce aux dépenses sociales, on a quand même des dépenses publiques de l'ordre de 57% du PIB, ce qui quand même est à peu près l'équivalent d'un pays très socialiste, que donc ce système ne peut plus fonctionner, surtout à l'heure où, on va en reparler après, on est extraordinairement endetté, que les taux d'intérêt peuvent monter et qu'il y a une révolution industrielle dont on ne connaît pas tout à fait la portée, qui est l'intelligence artificielle, donc tous les petits patchs, d'ailleurs qu'on a enlevé les patchs, parce qu'on disait on a fait des réformes des retraites, on a enlevé le patch.
Eh oui, là, elle est mise en pause pour l'instant.
Et donc, je ne vois pas comment on peut s'en sortir et qu'on échappe à un grand reset.
Ça va être les entreprises de Dindon de la Farce, Sylvie Cazenave-Perret, au final.
Je ne vais pas dire comme d'habitude, parce que les entrepreneurs, ils sont contraints à l'efficacité. un euro investi, il doit rapporter quelque chose.
Et oui.
Il doit, on doit investir dans nos futurs développements, dans l'IA, vous l'avez cité tout à l'heure, mais cette contrainte à l'efficacité nous laisse stupéfaits lorsque on entend les discours constants, permanents, ce qui vient d'être dit est parfaitement exact, sur la croissance de l'impôt, sur l'élimination quasi, ou l'impossibilité, où on est totalement désarmé devant la croissance des coûts, des charges sociales. Et nous, on apporte des solutions dans nos entreprises. C'est peut-être plus facile, mais ce n'est pas toujours facile aussi d'imposer des solutions sur l'augmentation de la durée du travail, l'amélioration de l'efficacité au travail, ce qui n'empêche pas la réduction de la pénibilité.
Eh oui.
On doit gérer tous ces éléments et on essaie de le faire. Et on a du mal à comprendre, de notre point de vue, comment il est encore possible, parce que 80 milliards, c'est quelque chose, mais le budget global des dépenses, c'est 1500 milliards à peu
on
près.
On est même à 1700 milliards.
1700 milliards. Ben oui. Donc, ça nous paraît totalement epsilon sur l'enjeu qui est le nôtre. Et c'est tellement dégradant. Vous avez cité tout à l'heure que les auditeurs, voilà, nos compatriotes, ils sont totalement démunis, désarmés, ils sont perdus. Oui. Et nos salariés
surtout,
le sont.
Personne n'y comprend rien, ce qui permet
on n'y comprend rien. On voit
les chiffres, hein,
on voit l'inefficacité partout dans les événements très récents. Au niveau de notre système judiciaire, on est totalement effaré. On ne comprend pas.
Le point de Sylvie est excellent. Il y a un problème d'inorganisation. On a rajouté du personnel dans tous les sens. C'est-à-dire que tous les fonctionnaires sont formidables, mais enfin, on en a rajouté combien entre les fonctionnaires nationaux, territoriaux, etc. On a un million. Et effectivement, on voit que le système craque de toutes parts, puisque les scores de l'éducation, du classement PISA, effectivement, on parle des délits et de la sécurité, et il y a un système qui marche bien, d'ailleurs, c'est effectivement c'est Bercy.
Oui.
Mais globalement, le chef d'entreprise, et Sylvie a vraiment raison, se sent complètement démuni de dire on sent qu'il n'y a pas de réorganisation, on sent qu'on est...
mais il n'y a pas de contexte politique aussi en même temps.
On est dans le sapeur camembert, on creuse un trou, et puis alors il faut mettre la terre quelque part, et on creuse un autre trou pour remettre la terre quelque part. Et c'est là où on se dit, il y a quand même un sujet de réorganisation globale, et d'efficacité. Et probablement c'est lié aussi au droit, qui fait qu'il y a beaucoup de contraintes, que les fonctionnaires ne peuvent sont bien obligés de respecter la loi. Et là, on arrive à nos sujets de contraintes réglementaires, de cette espèce de délire normatif et réglementaire qui d'ailleurs, dont la courbe correspond exactement avec celle de la dette. Vous l'avez déjà vu, Raphaël ?
Oui.
Il y a cette courbe incroyable. Plus il y a de normes, plus il y a de dettes.
Bah oui. Louis-Samuel, un dernier mot là sur les collectivités locales. Guillaume Dard évoquait le nombre de fonctionnaires. L'inflation du nombre de fonctionnaires, ça a été particulièrement vrai dans les collectivités locales, hein, ce que vous citiez tout à l'heure, la superposition des strates, encore une fois, administratives.
C'est intéressant parce qu'on a créé les intercos à la fin des années 90 et on a multiplié, on a renforcé peu à peu les compétences des collectivités. Et ce qu'on voit, c'est que en 20 ans, on a eu une augmentation d'à peu près 100 000 du nombre de fonctionnaires dans le bloc communal entre les communes interco, c'est-à-dire qu'en fait on a transféré des compétences mais on n'a pas transféré les effectifs et donc on a créé des doublons de compétences un peu partout.
Ce qu'on vous dit, c'est que souvent c'est la faute à la décentralisation, on a eu des lois de textes de décentralisation, il fallait bien des fonctionnaires pour assumer ces nouvelles fonctions.
C'est une part importante du problème, mais en fait il y a un rapport récent qui est le rapport Ravignon qui chiffre à 7,5 milliards le coût de l'enchevêtrement des compétences. En fait, ils ont regardé le temps que passent les fonctionnaires dans des instances de coordination, à discuter avec leurs homologues qui font à peu près la même chose. Ils tombent sur 7 milliards.
Et donc, les économies potentielles sur la sphère des collectivités
locales.
Sauf
que c'est très long à faire.
C'est très difficile.
C'est des jobs, c'est des pouvoirs locaux et tout le monde a envie de garder ses pouvoirs et qu'on n'y arrive pas. Et probablement, c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'une grande crise pour en sortir.
Hein. Sylvie Cazaferré, on en avait discuté la dernière fois. Oui. Vous bossez bien au niveau local quand même.
Nous, on travaille très bien au niveau local. Mais ce qu'on observe, alors on a des collectivités qui sont extrêmement réactives. Ça, il faut le souligner, qui sont proches de leurs entreprises, proches du terrain. Et ça, la décentralisation a apporté cette plus-value-là. Ça, c'est très important pour les entreprises, pour l'aménagement du territoire, l'aménagement des zones industrielles. On en a parlé tout à l'heure sur un dossier qui a touché le Sud-Sarthe avec une désindustrialisation massive d'un groupe papetier qui est parti et que voilà, tout le monde s'est uni pour réindustrialiser ce bassin et redonner du travail aux personnes qui sont en Sud-Sarthe, qui est un endroit de la Sarthe qui est très touché. On a ces collectivités qui sont extrêmement efficaces. Et en même temps, on a une multitude de propositions de la part de ces collectivités, mais pas que, d'organismes divers,
eh oui,
qui visent à nous apporter une aide que nous, on ne demande pas forcément tout le temps. Et ce que plaident les chefs d'entreprise tout le temps, c'est alléger nos frais de structure, c'est-à-dire nos coûts récurrents. Alors, on le réclame sur les salaires, ça c'est l'arlésienne, parce que moi je travaille depuis un peu plus de 40 ans, maintenant 45 ans, et on réclame toujours la même chose. Pourquoi ? Parce que nos clients, nous-mêmes, on s'est internationalisé, oui, on travaille dans d'autres pays, et on voit que d'autres pays vont être plus efficaces en termes d'offres, de sécurité, de santé, d'éducation, que nous, avec des coûts salariaux moindres. Comment font-ils ? Comment réussissent-ils cette... ça nous paraît presque magique.
C'est des exemples à suivre. Oui,
donc,
oui,
génie,
c'est l'efficacité,
souvent,
de l'euro
souvent, dépensé. Le temps de travail n'est pas plus long dans l'année, mais dans le temps. Souvent, les étudiants étudient moins longtemps. Ça, on n'en parle pas tellement souvent, mais c'est vrai que...
C'est une question récurrente que j'ai, moi, sur mon compte Twitter. Hein. Pourquoi on travaille aussi longtemps ? Les études sont-elles aussi longues ? Est-ce qu'il ne faudrait pas les raccourcir ?
Le concept du Master 2 me semble absolument idiot.
On a
eu des améliorations, puisque aujourd'hui, nous, dans notre entreprise, on accueille beaucoup de jeunes étudiants qui sont en alternance chez nous. Donc ça, ce sont des choses... C'est l'acculturation au milieu de l'entreprise, c'est très bien. Mais on a besoin d'efficacité sur tout le long de la chaîne. Et peut-être que, plutôt que de chercher des économies juste financières, traquer l'inefficacité. Parce que de l'inefficacité, si on arrive à la maîtriser, à la réduire, on aura de l'efficacité. Et de l'efficacité, c'est ce qu'attend tout le monde, on aura des économies. C'est comme ça qu'on fait hein, en entreprise. Hein. On ne dit pas on coupe les têtes. Hein.
Voilà.
Ça, c'était à la Révolution. Aujourd'hui, on dit comment on peut être plus efficace.
Tout ça avec un objectif qui est de limiter la dette qui croît encore. Il y en a un qui a tiré la sonnette d'alarme au niveau mondial. Hein. C'était hier une interview passionnante dans Les Échos. Ray Dalio, le fondateur d'un des plus grands hedge funds du monde, Bridgewater, qui explique... Alors lui, son diagnostic est... somme toute assez brutale, je ne vois aucun moyen d'éviter une crise de la dette. Voilà ce qu'il nous explique. Est-ce qu'il faut prendre cet avertissement au sérieux ?
Il faut prendre Ray Dalio, qui est un homme très réfléchi, très au sérieux, et en même temps, ça fait assez longtemps qu'il l'annonce. Et donc, et beaucoup de gens
l'annoncent. Il fait partie des Dr Doom, ce qu'on dit, hein, qui annonce régulièrement les visions un peu apocalyptiques. Bah oui, ça n'arrive pas pour l'instant.
Il a une capacité à quand même comprendre les marchés financiers qui lui ont valu de créer un des plus grands fonds d'investissement au monde avec une centaine de milliards. Il a vu prodigieusement le développement de la Chine. Mais ce qu'il explique, c'est que on a eu cette vague de... En fait, les démocraties ont été obligées d'augmenter la taille de leur État-providence. Parce qu'on parle beaucoup de la France, mais si on regardait la Grande-Bretagne,
c'est toutes les démocraties,
on est à peu près dans la même situation. Les États-Unis sont également dans la même situation, mais avec le dollar, ils peuvent jouer un peu différemment. Mais enfin, ils sont dans la même situation. L'Italie, les grands pays européens, il n'y a que l'Allemagne qui est un peu mieux gérée et qui n'a pas encore ce sujet de dette. Et on a profité pendant une dizaine d'années... presque une quinzaine d'années, postérieurement à la grande crise de 2008, de taux d'intérêt incroyablement bas qui ont fait que le coût de la dette...
L'argent ne coûtait plus rien.
...était devenu bas et...
On faisait des économies. Plus la dette progressait, plus on faisait des économies sur la charge d'intérêt. Taux très
bas. Alors, on aurait dû, probablement les États auraient dû profiter de cette phase de taux bas pour emprunter à très longue durée, et il semble qu'on ne l'ait pas vraiment fait.
On a allongé la durée quand même,
la
duration, comme on dit,
pas
de la dette
ça.
Française,
c'est
passé de 7 ans à 8 ans et demi à peu près.
Pas tant que ça, parce que à la limite, il fallait faire du 20 ans. Hein, si vous aviez des taux à 0,5, pourquoi s'arrêter de 7, si c'est exactement le chiffre c'est très bien, on est dans le bon sens, mais il fallait aller jusqu'à 20 ans. Je veux dire, si l'argent valait rien, un chef d'entreprise, s'il avait pu emprunter, regardez ce que dit, regardez le sourire de Sylvie.
Vous allez nous expliquer.
Si elle avait pu emprunter à 20 ans à 0,50, elle l'aurait fait. Ouais. Donc, on aurait pu le faire un peu plus. Et maintenant, on est dans un moment, on a eu une première crise inflationniste il y a 3 ans, et ce que personne ne sait, c'est si les prix du pétrole vont rester élevés et si l'IA, pour commencer, est un deuxième facteur. Il y a un jeu de mots en anglais qu'on ne peut pas tout à fait faire, mais c'est inflation IA sioniste, puisque ça fait monter les prix des semi-conducteurs de façon très importante. Pour donner un exemple pratique, hein, ce n'est pas de la théorie, c'est, il est probable que le PC à 500 euros, c'est fini.
Oui.
Et qui va passer peut-être à 700, peut-être à 1000. Et donc là, vous avez un effet inflationniste. Si vous avez cette deuxième crise inflationniste, les taux ont déjà remonté, mais on pourrait revoir les taux d'avant 2007-2008, remonter à 2006, et avoir des taux à 6%, 7%, 8%. Donc vous imaginez qu'avec des taux à 7%, 8%, on ne dit pas que ça va se faire, et on espère bien parce que ça ne sera pas, parce que ça va être une catastrophe.
Ça va nous coûter cher.
Mais c'est possible, et là, on est à la limite du système.
Alors,
c'est exactement ce qu'on a fait, ce que vous indiquez. Quand les taux étaient faibles, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué à travailler sur notre transition énergétique, on a intégré des plateformes logistiques à notre site de production, on a organisé l'alternative au plan financement de notre énergie, et on l'a fait sur des temps, on a refinancé complètement notre dette sur le bâtiment, sur l'exploitation, et c'est complètement exact, c'est-à-dire on a une telle compréhension de la culture cash à l'intérieur de l'entreprise. Une entreprise, ce sont des flux de cash.
Et, oui.
Et donc, si on ne comprend pas ça, on se laisse complètement étrangler par une dette court terme. Et ça, c'est juste pas possible, parce qu'un étranglement de dette court terme, c'est Louis XIV que vous citiez tout à l'heure, qui fond la vaisselle, l'argenterie du pays. Donc, c'est complètement délirant. Et ça, cette vision, cette agilité qu'on arrive à avoir dans nos entreprises, que certaines plus grosses organisations arrivent à avoir, on souhaite très bien que nos gouvernants l'aient également.
C'est le cas ou pas, Louis-Samuel ? Guillaume Dard est assez critique sur la gestion des flux de trésorerie, on va les appeler comme ça, hein, de l'État français. C'est un autre niveau aussi que les entreprises, il faut le dire. Mais l'Agence France Trésor, qui est logée à Bercy, est reconnue pour avoir une certaine expertise, plutôt saluée normalement. Donc, est-ce qu'on gère bien ou pas ces flux de trésorerie au niveau public de l'État ?
Je comprends que l'Agence France Trésor avait quand même assez peu anticipé la hausse brutale des taux d'intérêt récentes. Ensuite, ce qu'il faut rappeler concernant cette question de la dette, c'est que une entreprise qui réalise un déficit, elle s'endette. Un État qui réalise un déficit commercial, eh bien, in fine, il s'endette. Enfin, l'État s'endette, ou les particuliers s'endettent, ou les entreprises s'endettent. Ce qu'on appelle les déficits jumeaux en économie.
Oui.
Un État, enfin, une nation qui a un déficit commercial a également un déficit public le plus souvent.
Budgétaire, oui.
Et donc, en fait, c'est aussi pour ça que l'Allemagne est plutôt une bonne situation financière, alors que les États-Unis et la France sont au bord de la crise. Donc, je pense qu'on n'arrivera pas à inverser, enfin, à sortir de cette crise de la dette. Effectivement, là, on arrive au bout d'un cycle. Enfin, on voit que les niveaux d'endettement de la France, des États-Unis et de différents États qui sont dans la même situation que nous sont plus soutenables.
Donc, mais est-ce que c'est pas ce qu'on dit depuis 20 ans ? Je me souviens du rapport de Michel Pébrot au début des années 2000.
Ben, on aurait mieux fait d'écouter un peu plus.
Sur les 1000 milliards de dettes, on est à 3500 et puis la France continue de tourner finalement, Guillaume Dard.
S'il y a de la dette, ça veut dire qu'il y a de l'épargne. Bon, traditionnellement...
Il y a beaucoup d'épargne en France.
Non, mais pas qu'en France, dans le monde, parce que la moitié de la dette française n'est pas détenue par les Français. Donc, ce n'est pas un sujet français, c'est un sujet global. Avec tous les fonds de pension qui ont été créés dans le monde entier, il y a un besoin d'investir. Et donc, vous investissez ces fonds de pension, ils investissent en actions d'un côté, en obligations de l'autre, et traditionnellement, ils prennent une grosse partie d'obligations parce que c'est un peu moins volatile que les actions. Et dans l'histoire du monde, normalement, tous les 30 ou 40 ans, il y a une espèce de guerre mondiale ou des révolutions qui détruisent l'épargne. Et là, heureusement, Dieu nous préserve, on n'a pas eu cette guerre mondiale. Donc, cette colonne d'épargne, elle est énorme. Donc, elle absorbe la dette qui est émise. Alors, c'est un espèce de couple mi-vertueux, mi-infernal, parce qu'il est vertueux parce qu'il permet qu'on ne soit pas dans une faillite globale, oui. Il est infernal parce qu'il permet aux États de s'affranchir des contraintes qu'ils avaient normalement. Et puis si vous rajoutez à ça la dimension de l'euro, pour la France,
oui.
C'est qu'auparavant il y avait un rappel qui était le cours de change du franc.
Oui.
C'est-à-dire que quand on dévaluait, quand beaucoup ça allait de pas. Bêtises... On était obligé de dévaluer et c'est ce qui a obligé, on en a souvent parlé ici, en 83, après la troisième dévaluation lors du septennat, du premier septennat de François Mitterrand, quand on avait fait plein de bêtises dans tous les sens, on avait eu trois dévaluations et Helmut Kohl avait dit à François Mitterrand, mais alors, vous voulez rester avec nous ou pas, François? Parce que oui. Si vous voulez rester, il faut être plus sérieux. Et donc, on avait inversé le principe, c'est-à-dire qu'on était revenu vers une attitude plus libérale, pas complètement libérale, mais enfin, plus rigoureuse budgétairement et plus libérale pour les entreprises. Et on a eu, dans les années 80, ça a été formidable, la deuxième partie des années 80, la France, qui avait compris qu'elle était face au gouffre. Et puis après, à partir de 2000, on a refait toutes les bêtises possibles.
Bon, ce que je comprends, c'est que le sujet, puisqu'on a un équilibre entre l'épargne massive et la dette, c'est les politiques qui font pas leur boulot, en réalité, au sein des États, non? C'est ça, la conclusion?
Non, c'est que c'est facilité par cette... Enfin, c'est une facilité trop tentante pour un politique. Si vous êtes allé à Pompéi, ou pas, Raphaël?
Je ne suis pas allé à Pompéi.
Bah alors, vous avez
projet d'y aller cet été, figurez-vous.
Il y avait une urne qui était à mon édile, et il y avait eu des dépenses énormes. Donc, depuis qu'il y a des démocraties, il y a une tentation pour les personnes élues de faire de la dépense. Donc c'est éternel.
Oui. Bon, un mot qu'attend de la BCE, Louis Samuel. Là, on a quand même une semaine importante qui arrive à la fois la BCE jeudi, la Fed vendredi. Avec ses pressions inflationnistes, on attend...
Alors c'est intéressant parce que Trump a remplacé le gouverneur de la Fed.
Kevin Warsh, nouveau
président
de la Fed.
Auquel, de ce qu'on comprend, il a plus ou moins demandé de baisser les taux, oui. En contrepartie de sa nomination. Et donc, disons que les décisions de la Fed cette semaine sont regardées d'assez près, mais tous les économistes sont plutôt alignés sur le fait qu'on ne peut pas baisser les taux aujourd'hui aux États-Unis et qu'il faudra même plutôt les monter si on voulait respecter les mandats.
Il y a de l'inflation et le marché de l'emploi se porte bien.
C'est ça. Donc en fait, vis-à-vis du double mandat qu'a la Fed, qui est à la fois de soutenir la croissance mais aussi de maîtriser l'inflation, le plus probable c'est que les taux ne bougent pas. Alors qu'en Europe, le seul mandat de la BCE, disons le mandat principal, c'est de réguler l'inflation.
Des prix.
Et donc malgré le fait que la France, la zone euro, rentre dans une période de récession, puisqu'on a un premier trimestre de croissance négative. Et, disons que tout porte à penser, tout laisse penser que le prochain sera dans la même situation.
Risque d'être un peu compliqué, oui.
Qu'on risque d'annoncer la récession et en même temps de monter les taux.
Oui.
On devrait passer, augmenter de 25
on perd
points
un peu
de base.
La tête, non ?
C'est un petit goutte de 2011.
Et
ça avait été, l'été 2011 avait été très sombre. Jean-Claude Trichet, qui
très
est
critiqué.
Un homme très réfléchi, avait sûrement une bonne raison d'avoir pris avec son conseil, il ne la prenait pas tout seul, cette décision. Néanmoins, derrière, on avait eu cet été abominable et puis des inquiétudes. D'ailleurs, sur la dette, vous vous souvenez des rencontres Sarkozy-Merkel,
oui.
En disant « mais comment est-ce qu'on va faire ?» Puis à l'automne, Berlusconi avait été renvoyé par les Européens parce que la dette italienne s'était envolée. Donc c'est toujours dangereux de monter les taux. On comprend pourquoi ils veulent le faire, parce que l'inflation, elle est basse en France, mais un peu plus haute dans le reste de l'Europe. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a un mandat qui est de lutter contre l'inflation. Aux États-Unis, il va falloir qu'ils soient incroyablement talentueux, Warsh, parce que d'abord, les débuts de mandat des patrons de la Fed sont toujours très difficiles. C'est-à-dire que même le génie de Greenspan, il a commencé tout de suite par avoir le crack de 87. Mmh. Bernanke a beaucoup souffert, Yellen a beaucoup souffert. Et Jay Powell, son premier mandat, ça a été très difficile au début. Donc, ils font un talent incroyable avec cette contrainte politique qui vient d'être rappelée. Et il ne peut pas le faire, il ne peut pas, parce qu'on est à peu près, sur les trois dernières années, à 3,5-4% d'inflation aux États-Unis. Donc, c'est deux fois la limite annoncée. Donc, il ne peut pas. Et d'ailleurs, les marchés pensent qu'il ne montera pas les taux cette fois-ci, mais qu'il les montera à l'automne. Et alors là, s'il baissait les taux, mais ce serait une surprise absolument incroyable, mais ce serait un signal de
mouvement inflationniste. C'est le test de l'indépendance vis-à-vis du président américain. Hein.
Vous imaginez dans les entreprises entendre le contenu des échanges ici autour de cette table, dans ce studio, et se dire, est-ce que j'investis? Est-ce que je recrute?
Ouais.
Qu'est-ce que je fais?
Quel environnement?
Les entreprises, vous l'avez dit, ça a été très difficile. Début d'année, assez catastrophique pour tout le monde. Des hausses de partout. Des clients qui prennent pas les hausses. Des clients dont la situation économique se fragilise pour plein de raisons. Des impayés. Les tribunaux de commerce qui sont envahis, parce qu'on a un regain quand même d'entreprises ou de dirigeants, d'ailleurs, qui, lassés par la situation, n'arrivant pas à transmettre leur entreprise, décident tout simplement de l'arrêter. Donc on est quand même dans un contexte extrêmement anxiogène qui fait que dans les entreprises, pour pouvoir investir, recruter, on a besoin de vision et de stabilité. Et là, on est totalement dans un univers désorganisé.
Ben oui.
Où on voit.
Mais la politique française, on voit bien, ça vous être rassuré. Non,
alors, on attend. Alors, c'est vrai que les chefs d'entreprise se disent, peut-être à tort, que attendons les élections.
Mais c'est long quand même.
Et exactement, c'est très long, mais on y est. Dans un an, on y est.
Bon. Un an pour un chef d'entreprise, c'est long.
Oui, mais c'est moins pire que ce
les entreprises ont tenu jusqu'à maintenant. Elles tiendront encore pour un an. Et puis un dernier élément qui vient disrupter l'entreprise, c'est l'IA. L'IA qui provoque quelques secousses sur les marchés. On en parle dans une minute. Et puis l'IA qui disrupte aussi l'entreprise. On va voir comment elle commence à absorber très concrètement dans les process. Est-ce que ça change pour les collaborateurs et les chefs d'entreprise? Ne quittez pas. On se retrouve dans une minute.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.